VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du mardi 28 août 2017. Voici d'abord le sommaire. La majorité présidentielle dans la rue pour la paix. Nous sommes à Lomé au Togo.
Ces manifestations du parti au pouvoir ne sont qu'une démonstration de force en réponse à la mobilisation du Parti national panafricain PNP.
Kai Lawson donnera les détails. Emmanuel Macron prochainement à Ouagadougou pour soutenir l'idée d'une Afrique de l'avenir. Expropriation foncière au Bénin qui met en colère les occupants.
Cette zone qu'on est en train de vouloir exproprier, une grande partie, possède des titres fonciers.
Ginette Adande a suivi pour vous le Conseil de sécurité de l'ONU se penche de nouveau sur la Corée du Nord. Le président américain Donald Trump au chevet des victimes de l'ouragan Harvey dans le Texas. Gardez l'écoute pour suivre les sports et l'actualité économique peu après le journal. Les Nations Unies ont condamné fermement l'intrusion la veille de militaires de l'armée congolaise dans ses installations à Kananga, dans le centre de la RDC. Ces militaires tentaient d'y arrêter un journaliste sous les ordres du général Marcelin Assoumani, commandant des opérations dans la région des Kasaï. Le mini-sommet euro-africain tenu hier à Paris sur la crise migratoire a adopté une feuille de route reprenant l'idée de réinstallation proposée par le président français Emmanuel Macron. Mais chaque pays a mis en avant ses propres préoccupations. Les présidents tchadiens, nigériens, Idrissi Déby Itno et Mahamadou Issoufou ont insisté sur la nécessité du développement pour lutter contre la crise migratoire et souhaité davantage de financement de leurs partenaires européens. Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait prochainement à Ouagadougou dans le cadre de ses efforts diplomatiques pour créer un axe intégré entre Afrique, Méditerranée et Europe, notamment sur la crise migratoire. Devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée, M. Macron a déclaré que l'Afrique n'est pas seulement le continent des crises, c'est un continent d'avenir, nous ne pouvons pas le laisser seul, a-t-il lancé. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Nous parlons toujours de la crise migratoire en Méditerranée. Les gardes-côtes libyens ont secouru plus de 300 migrants clandestins aujourd'hui. Les précisions avec Claire Moingibourg.
C'est un porte-parole des forces navales de Libye qui a confirmé l'information à l'agence Reuters. 140 migrants clandestins ont été sauvés tôt ce matin par les gardes-côtes libyens à l'ouest de Tripoli. Et un autre groupe de 164 migrants ont été sauvés de Sabratha, dont 7 femmes et 6 enfants. Des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. Un plan d'action a été approuvé hier à Paris par le Niger, le Tchad et la Libye, ainsi que par 4 pays européens pour soutenir les pays qui luttent pour contenir le flux des migrants. Les dirigeants se sont mis d'accord sur le principe de la mise en place d'un mécanisme pour identifier les migrants légitimes qui fuient la guerre et la persécution et pour utiliser les Nations Unies pour les enregistrer au Niger et au Tchad afin de les empêcher d'être exploités par des contrebandiers. 140 000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2014.
Au Cameroun, colère de Yaoundé suscitée par une chaîne de télévision indépendantiste anglophone. Le gouvernement a demandé son arrêt sans délai et a dénoncé son caractère séditieux et haineux. La Southern Cameroun Broadcasting Corporation est diffusée depuis quelques semaines uniquement en ligne dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest sur les 10 du pays. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma, l'accuse d'être un organe de propagande du groupement dénommé Southern Cameroun National Council. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé 11 passagers d'un bus près de la ville pétrolière de Port Harcourt dans le sud-est du pays, mais 5 d'entre eux se sont échappés avant l'arrivée des secours. La Guinée équatoriale réclame au géant pétrolier français Total 40 milliards de francs CFA pour fraude dans la vente de carburant entre 2010 et 2012. Le point avec Morgane Guiriac.
Le ministre équato-guinéen des Finances, Miguel Egonga Obiang, a déclaré qu'après des investigations, son pays a trouvé une situation suspecte et frauduleuse dans la vente de carburant entre 2010 et 2012. Le gouvernement exige que le géant pétrolier français présente une proposition d'arrangement. Contactée par l'AFP, la direction de Total en Guinée équatoriale n'a pas répondu. Malabo dit avoir transmis le dossier à la justice pour déclencher une procédure judiciaire. Pour rappel, Théodorin Nguema, vice-président et fils du président équato-guinéen, est jugé en France dans l'affaire dite des biens mal acquis. La justice française a requis à son encontre 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de biens saisis, dont un immeuble évalué à plus de 100 millions d'euros.
Morgane Guiriec. En Égypte, 14 personnes ont été tuées dans un bus qui a chuté d'un pont après une collision avec une camionnette. Au Soudan, le chef de l'agence de coopération américaine, Mark Green, espère des progrès sur l'accès à l'aide humanitaire dans la région du Darfour. Il a visité le camp de Zamzam qui accueille des dizaines de milliers de déplacés. Monsieur Green faisait référence à l'un des 5 points sur lesquels Washington fondera sa décision pour lever ou non complètement les sanctions prises contre Khartoum en 1997. Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, a promis aujourd'hui qu'il ne chercherait pas à se venger de ses 4 mois d'incarcération pour trahison. Il a par la suite assuré avoir pardonné à ceux qui l'ont ordonné. Rassemblement de soutien à la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe. Elle est accusée d'avoir frappé une femme lors d'une rixe en Afrique du Sud. Pretoria a accordé l'immunité diplomatique à la femme du président Robert Mugabe, suscitant de nombreuses critiques. En Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini-Zuma a démenti vouloir protéger l'actuel chef de l'État d'éventuelles poursuites judiciaires. L'ex-épouse du président Jacob Zuma fait partie des principaux prétendants à la direction du Congrès national africain au pouvoir et lui succéder. Elle a estimé offensant de suggérer que sa candidature visait à assurer une forme d'immunité à Jacob Zuma, mise en cause dans plusieurs scandales de corruption.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump dans le Texas pour soutenir les habitants frappés par la tempête Harvey qui a provoqué des inondations sans précédent. Cet ouragan menace aussi la Louisiane voisine. Les précisions de John Lindon.
Accompagné de son épouse, le président américain doit constater les dégâts causés par Harvey dans cet immense État du Sud, le deuxième du pays par la taille. Pour l'instant, 3 décès liés à la tempête ont été confirmés ce week-end par les autorités. Houston, la métropole de près de 2,3 millions d'habitants, au cœur de la catastrophe, demeure sous la menace constante de la montée des eaux. Greg Abbott, le gouverneur du Texas, a mobilisé 12 000 soldats de la garde nationale pour aider les sinistrés. Le président américain a promis que le gouvernement fédéral soutiendra une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. Pour l'heure, de nombreuses familles restent bloquées ou s'entassent dans des abris. Routes et autoroutes sont inondées, de nombreuses maisons sans électricité.
La Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon. Ceci a suscité des réactions du Japon et de la communauté internationale. Les précisions avec Pascal Serra.
Une réunion est prévue en urgence cet après-midi à la demande de Washington et Tokyo pour discuter de cet événement qualifié de menace grave et sans précédent par le premier ministre japonais Shinzo Abe. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a affirmé que quelque chose de fort devait être décidé après le tir de missile. « Trop, c'est trop », a affirmé la diplomate qui a rang de ministre dans l'administration américaine. La Corée du Nord, à travers son ambassadeur, a invoqué le droit à l'autodéfense face aux intentions hostiles affichées selon lui par les États-Unis. Au Japon, des messages ont été envoyés par le gouvernement à la population, leur demandant de s'abriter et des sirènes ont retenti dans le nord du pays. Le trafic ferroviaire a été temporairement suspendu. Le dernier missile a été tiré de Sunan, près de Pyongyang, lundi, et a survolé le Japon, a expliqué l'état-major sud-coréen.
En Afghanistan, des frappes aériennes ont emporté la vie de 13 civils. Des forces afghanes visaient une prison et une base talibane dans la province occidentale de Herat, mais ils ont également atteint des habitations civiles à proximité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré à Ramallah que la solution à deux États et la fin de l'occupation israélienne sont le seul moyen de garantir la paix et la coexistence de deux États dans la sécurité et une reconnaissance mutuelle. Monsieur Guterres a rappelé que ce règlement constitue depuis des années la référence d'une grande partie de la communauté internationale, de l'ONU à la Ligue arabe, en passant par l'Union européenne, pour régler l'un des plus vieux conflits de la planète. Hier, il a rencontré les dirigeants israéliens qui lui ont clairement signifié que la menace représentée à leurs yeux par l'Iran et le Hezbollah qui constituait une priorité plus pressante que l'entreprise de paix enlisée avec les Palestiniens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'était donc le journal. À présent, vous allez suivre l'actualité économique en Afrique, la Minute Éco, qui est signée Claire Morin-Gibault.
Power Africa, l'initiative lancée par Barack Obama en 2013, fait son bilan. Depuis sa création, Power Africa a mobilisé plus de 54 milliards de dollars d'engagement de la part de 140 partenaires issus du public et du privé. Le gouvernement américain a déboursé quelque 500 millions de dollars. L'objectif de cette initiative est de connecter 60 millions de foyers et d'entreprises à un réseau électrique. Si le Nigeria cumule près de la moitié des projets, en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin ont pu bénéficier de financements. Axel Emmanuel, un ancien banquier reconverti dans le chocolat, a lancé hier le premier bloc de chocolat fabriqué en Côte d'Ivoire. Il utilise des fèves de cacao certifiées commerce équitable et torréfiées par des femmes dans une coopérative pilote. Grâce à un partenariat public-privé avec la communauté urbaine de Douala, le marché Congo va être réhabilité à l'aide d'un financement de 7 milliards de francs CFA. Un espace de 1400 boutiques devrait ouvrir en septembre 2018 dans la capitale économique camerounaise.
Dans la page sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En football, la saga des transferts continue, n'est-ce pas? Plus que deux jours avant la fin du mercato et les prix des joueurs ne font que grimper.
Tout à fait Eric, après avoir formulé une offre de 72 millions d'euros pour acheter les trois années du contrat de Thomas Lemar, 21 ans à Monaco, Liverpool revient à la charge avec une nouvelle offre de 80 millions d'euros cette fois-ci. Les Reds proposent 50 millions payables dès cet été, 30 millions à l'été prochain. Le prêt, le prêt de l'international belge, tout à fait Eric, Divock Origi.
Oui, on est également proche du dénouement de l'affaire Kylian Mbappé.
Effectivement, le PSG et Monaco pourraient convenir d'un prêt d'un an avec option d'achat pour permettre au club parisien de respecter le fair play financier. Le coût de l'opération est estimé à 180 millions d'euros.
C'est presque fait, Yacouba, puisque Monaco tient déjà le remplaçant de Kylian Mbappé.
Oui, l'attaquant monténégrin Stevan Jovetic s'est officiellement engagé avec le club de la Principauté. Il a signé un contrat de 4 ans. Âgé de 27 ans, Jovetic a été prêté la saison dernière au FC Séville, où il a inscrit 7 buts en 24 matchs. Le champion de France a déboursé 11 millions d'euros auprès de l'Inter Milan pour récupérer le joueur.
Ayman Abdennour lui fait son retour en Ligue 1.
Le défenseur central tunisien a passé sa visite médicale à Marseille. Les dirigeants de l'OM ont trouvé un accord avec Valence CF sur un prêt de 2 ans. L'ancien Toulousain et Monégas a donné sa préférence au club phocéen après avoir pourtant passé sa visite médicale avec le club russe de Zénith Saint-Pétersbourg en fin de semaine dernière. Mais l'intérêt marseillais dans la dernière ligne droite a tout changé.
Avant de nous quitter, Yacouba, le tennis pour terminer, Sharapova s'offre Alep pour son retour en Grand Chelem.
BLM. Oui, Eric, la Russe Maria Sharapova a battu la numéro 2 mondiale, la Roumaine Simona Halep, 6-4, 4-6, 6-3 au premier tour de l'US Open pour son premier match en Grand Chelem depuis janvier 2016. Et puis, coup de tonnerre pour terminer, l'Allemande Angelique Kerber, sacrée à New York en 2016, a été éliminée aujourd'hui même dès son entrée en lice dans l'édition 2017 de l'US Open.
C'est le sixième mondial Kerber. Merci Yacouba pour toutes ces précisions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour développer les dossiers du jour. À Lomé, trois jours consécutifs de manifestations à l'appel du parti au pouvoir unir. La majorité présidentielle manifeste, dit-on, pour la paix. Mais il veut démontrer sa force en réponse aux manifestations récentes de l'opposition qui demande des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Les précisions de Kai Lawson, notre correspondante à Lomé.
L'Union pour la République unir le parti au pouvoir va mettre dans les rues ses militants et sympathisants. Le parti du président togolais Faure Gnassingbé dit vouloir marcher pour la paix au Togo. Baptisé Marche pour la paix, par ces manifestations, unir entend soutenir les institutions de la République et dénoncer les actes de violence commis contre les forces de l'ordre et de sécurité dans leur mission, annonce un communiqué du parti. Pour certains observateurs, ces manifestations du parti au pouvoir ne sont qu'une démonstration de force en réponse à la mobilisation du Parti national panafricain PNP du 19 août dernier. Ces marches ne sont pas destinées à s'opposer à qui que ce soit, a déclaré Gilbert Bahara, un cadre du parti. Elles visent plutôt à réaffirmer l'attachement du parti unir et de ses militants à la démocratie, à l'état de droit, a-t-il soutenu. Cette formation politique dit être engagée à réaliser les réformes exigées par l'opposition dans un esprit consensuel. Sauf que dans les faits, cette bonne volonté affirmée du parti au pouvoir patine depuis 11 ans. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Bénin, plusieurs dizaines de propriétés réparties sur plus de 235 hectares de terre à quelques kilomètres de Cotonou sont sous une menace d'expropriation. C'est par un arrêté préfectoral que certains propriétaires sont sommés d'abandonner leurs terres parce que le domaine serait d'utilité publique. Une décision qui n'est pas du tout, qui n'est pas du goût de ses occupants. Plus de précision, la correspondance à Cotonou de Ginette Fleur Adandé.
Près de 6000 parcelles déclarées d'utilité publique sans aucune démarche préalable aussi bien à l'égard des habitants concernés qu'à l'égard des autorités locales. C'est ce qu'on peut retenir du coup de gueule des habitants de Akasato situé dans le département de l'Atlantique à 30 minutes de Cotonou. Julien, très remonté contre la décision d'expropriation, parle de gangstérisme orchestré par les autorités sans aucune mesure d'approche.
Cette zone qu'on est en train de vouloir exproprier, une grande partie, possède des titres foncier. L'article 3 du décret qui explique la loi d'expropriation a été violé. On n'est pas venu nous voir. Comment puis-je avoir ma chose? On ne me voit pas, on vient me l'arracher. J'appelle ça du gangstérisme.
Disposition prévue par le code foncier au Bénin, il faut dire que les populations dans le cas actuel fustigent le passage en force. Madame Adjaro est fonctionnaire installée dans la zone depuis de nombreuses années.
Même à des milliards de francs, nous disons non. J'ai servi sur le flambeau béninois pendant 30 ans et j'ai acheté cette parcelle-là à tempérament dans une société ou difficilement même, j'ai eu de la convention.
Ganiou est aussi un jeune propriétaire terrien. Il attendait la viabilité de la zone, mais quelle ne fut pas sa surprise devant l'annonce de la mesure d'expropriation. Pour lui, le gouvernement joua un rôle pas très clair, car impossible de les contraindre à renoncer à leur parcelle après autant de dépenses englouties dans le lotissement, l'enregistrement, dans le seul souci de se mettre à l'abri de ces gens d'inconvénients.
Un domaine dans lequel les gens se sont installés en matériaux définitifs. L'État, après lotissement, a installé les populations. Et l'État qui déclare ne pas avoir les moyens, se donne, on veut se donner aujourd'hui les moyens de dédommager cette population, alors qu'il y a d'autres zones dans le même arrondissement où l'État peut décider d'aller investir et développer ces zones. On ne comprend pas ce qui se passe dans ce dossier de déclaration d'utilité publique.
Paul, quant à lui, voit de mauvais œil qu'une telle mesure soit prise sans que les autorités locales ne soient dans le secret de la décision. Pour lui, cet état de choses témoigne d'un malaise profond.
Depuis que ce problème d'exploitation est arrivé, on a déjà enregistré 3 morts. Parce que lorsqu'ils ont appris ça, ils ont connu des crises cardiaques et ils sont morts. Les exemples sont là. Et beaucoup sont même malades actuellement. On a été voir le maire. Le maire aussi dit que lui, là, il est là quand on est arrivé lui imposer. On est dans quel état? L'arrêté ne nous a même pas été notifié. Nous l'avons reçu dans les couloirs.
Le ministre du cadre de vie, touché par les cris des habitants, a tenté de mettre sur pied une commission afin de réfléchir sur la situation. L'offre a été purement et simplement déclinée par les populations qui ont préféré saisir la justice pour être rétablie.
Le gouvernement intervient dans la pure légalité sur ce que le code foncier domanial permet à partir de août 2013. Maintenant, les investigations sont en cours et c'est la première étape de l'intervention du gouvernement.
Même si l'État a prévu un dédommagement, certains pensent qu'il n'y a aucun montant qui pourrait remplacer le sacrifice consenti sur ces terres aujourd'hui déclarées bien de l'État. De Cotonou, je n'ai plus attendu pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur le mini-sommet euro-africain d'hier à Paris sur la crise migratoire. Dans son discours de politique étrangère devant les ambassadeurs français, Emmanuel Macron a qualifié l'Afrique de continent de l'avenir et a annoncé son déplacement à Ouagadougou pour porter ce message. Le président français a par ailleurs officialisé aujourd'hui la création d'un conseil présidentiel pour l'Afrique, tenant par ce fait une promesse de campagne. Les membres de ce conseil seront chargés de le conseiller sur sa politique africaine. Pour en parler, John Lyndon a joint à Paris Jemal Taleb, avocat d'affaires.
Alors, je l'accueille de façon absolument satisfaisante. Je considère que pour une fois, il y a peut-être une volonté d'avoir une politique africaine un peu plus objective. La question est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Est-ce que nous allons mettre encore un gadget de plus dans lequel nous allons placer des amis et un peu les copains qui n'en sont pas quelque part, ou est-ce qu'alors il y a une volonté réelle de faire une vraie dynamique de la politique africaine de la France, c'est-à-dire une autre, une nouvelle politique, un nouveau regard et une nouvelle orientation.
Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle France-Afrique, mais sous Macron?
Je souhaite que ça ne soit pas le cas et j'espère que ça ne sera pas le cas. Pour une fois, c'est le continent africain aujourd'hui, on a une génération de dirigeants qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas connu le copinage incestueux de la France-Afrique. Nous avons pour une fois un chef d'État français qui lui a 39 ans, c'est-à-dire qu'il est jeune et il ne connaît pas ce vieux réflexe de la France-Afrique. Est-il capable de mettre en œuvre ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale? Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder l'Afrique comme étant la locomotive de la France désormais et pas l'inverse, et que la France, pour qu'elle continue de jouer un rôle dans la mondialisation, pour qu'elle continue à être la puissance qu'elle est, avec un rang important au Conseil de sécurité des Nations Unies et un rôle important dans la scène internationale, elle a besoin d'une Afrique forte, une Afrique avec un regard différent.
L'un des outils décriés de la France-Afrique, c'est le franc CFA et le débat fait rage en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle volonté pour les chefs d'État africains et même pour la France de se départir de cette monnaie-là?
Alors, j'ai bien peur que la France n'ait pas encore compris que le franc CFA est une donnée de l'histoire coloniale et qui n'a plus de sens aujourd'hui. J'ai bien peur que les dirigeants français ne l'aient pas compris. J'ai d'ailleurs pas davantage confiance dans les chefs d'État africains aujourd'hui qui n'ont tous pas le courage de le comprendre. L'ancien président ivoirien, le président Gbagbo, disait une chose à juste titre. Il dit: nous avons deux problèmes, le franc CFA et les armées françaises en Afrique. Il faut relativiser. Moi, je ne suis pas pour casser quoi qu'il en soit, mais je pense que le franc CFA n'a plus de sens aujourd'hui.
Emmanuel Macron a réuni à Paris les chefs d'État africains pour discuter de la question des migrants. A-t-on besoin d'aller à Paris pour cela?
Ah, ça m'attriste, je vais vous dire, pour être très sincère avec vous, parce que je considère que s'il veut parler d'immigration, il faudrait d'abord aller en Afrique. Mais les convoquer tel une espèce de sujet pour venir parler d'immigration, ça m'emmerde un peu. Et je vais vous dire, ça m'embête tellement qu'il y a tellement de sujets utiles dont on peut parler qui n'est pas l'immigration. L'immigration est une chose absolument dramatique et je vais vous dire, quand un Africain n'a comme rêve que de demander le visa ou monter sur une barque pour s'échouer afin de quitter son pays et son continent, c'est une tristesse. Et donc les chefs d'État africains devraient se réunir entre eux-mêmes pour réfléchir d'abord sur ce sujet-là, avant d'être convoqués par une espèce de proconsul ou de suzerain qui va leur dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien à faire.
Jemal Taleb, avocat d'affaires à Paris.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Avant de nous quitter, rendons-nous d'abord vers le pays des mines et une colline, au cœur de l'Afrique, le Burundi. Suivez bien, Christophe Murundiza vous fait découvrir une coutume ancestrale burundaise appelée Nikodzowakwa. Cette valeur traditionnelle incite la femme à accepter sa soumission et aujourd'hui remise en cause par certaines d'entre elles. Face à la maltraitance dont elles sont souvent victimes, certaines femmes n'hésitent plus à prendre leur destin en main. Christophe Murundiza a visité plusieurs familles. Voici son reportage.
Une bande de joyeux enfants joue ensemble dans une parcelle située dans un des quartiers populaires de Bujumbura. Parmi ces enfants, quatre vivent avec leur grand-mère. Leur maman, après 15 ans de vie commune avec son mari, a finalement quitté son mari qui l'a maltraité au quotidien. S'il est vrai qu'il est au courant de la coutume appelée Nikodzowakwa qui appelle les femmes burundaises à accepter tous les caprices du mari pour protéger le ménage, la femme a finalement jeté l'éponge. Témoignage.
Bon, j'ai vécu pendant 15 ans ensemble avec mon mari, mais 10 ans étaient très difficiles. J'ai vécu 10 ans dans les insultes. On se parlait avec des insultes. On ne programmait jamais ensemble l'avenir de nos deux enfants. Et puis j'ai opté quitter mon mari il y a 2 ans.
Certes, cette pratique ancestrale burundaise avec des valeurs positives de respect et de cohabitation pacifique entre les couples mariés ou pas. Aujourd'hui, la majorité des femmes burundaises ne supportent plus d'être maltraitées par leur conjoint. Cet homme marié, père de 2 filles, revient sur la définition initiale de cette coutume burundaise.
Pour nous, elle n'est pas toujours d'actualité avec l'évolution du monde que nous vivons. Mais il y a toujours des Bashingana et des Bafasun qui la font respecter. Ça veut dire que des fois, une femme peut se plaindre comme quoi elle est maltraitée et pense que la meilleure solution, c'est le refuge chez son père et sa mère. Donc, si tu veux vraiment fonder un foyer stable, vois ton mari au visage de ton père qui est devant toi. La femme de même, le visage de sa mère. S'il y a quelqu'un à respecter, s'il y a quelqu'un qui vous aime énormément, ce sont les deux parents. Il y a toujours des malentendus, ça c'est normal. Mais trouver le refuge chez elle ou chez lui, c'est pas la solution.
Cet autre homme, sexagénaire, estime que la solution dans un couple réside dans l'échange mutuel entre les conjoints qui peuvent trouver ensemble une solution à leurs différends.
Il y a moyen de supporter ou de ne pas supporter. D'un côté, supporter, ça dépendra de combien de fois vous êtes maltraité. Chez les hommes qui tapent les femmes, moi je les dirais qu'ils PCC. Ce n'est pas les bâtons ou les gifles qui donnent des leçons. Mettez-les à côté, causez, il y en aura la solution.
Causerie, échange, la vie en commun entre les conjoints burundais, malgré cette coutume de Nikodzowakwa, mérite plus d'attention entre la femme et l'homme pour le bonheur des enfants, selon un adage burundais qui appelle à plus de respect entre les couples. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde chez Chero. À la console Bill Balber, à la présentation Eric Manelakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À tout à l'heure.
aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.